Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour ? 8 février 2023, parution d'une étude scientifique démontrant le bien-être procuré par l'intérêt porté au vivant, notamment via les sciences participatives. Que sont les sciences participatives? Dans quel contexte ces dernières sont apparues? Comment peut-on mesurer le bien-être dans une étude scientifique? Et d'après cette étude, quels éléments de bien-être sont procurés par la pratique de cette activité? Les sciences participatives sont des programmes de collecte d'informations impliquant une participation du public dans le cadre d'une démarche scientifique. L'objectif étant d'avoir des données sur la nature et la biodiversité pour étudier son état de santé, mais également de produire des outils de sensibilisation et d'éducation à la nature pour former une communauté et mobiliser autour d'enjeux liés au vivant. En France, les sciences participatives en biodiversité telles que nous les connaissons émergent en 1989 avec le suivi temporel des oiseaux communs, le STOC, coordonné par le Muséum d'histoire naturelle. Les sciences participatives en biodiversité se développent plus largement par la suite dans les années 2000 et 2010. Dans l'étude sujet de cet épisode, menée à l'été 2020 avec plus de 1200 personnes, on a demandé à chaque candidat de prendre part à 5 activités en 8 jours. Ces activités pouvaient être des applications collectives de protocoles scientifiques, ici le protocole papillon et le protocole pollinisateur, ou bien faire une activité en faveur du vivant, des plantations de prairies fleuries sur d'anciens gazons par exemple. Ou encore, une activité cumulant protocole de science, participative, et action en faveur du vivant. Chaque activité durait maximum 10 minutes. À la fin de ces 8 jours, il était demandé à chaque participant de continuer de remplir un questionnaire que chacun avait déjà commencé à compléter avant le début de l'expérience. Les nombreuses questions leur demandaient de retransmettre les sensations vécues pendant l'activité. Avez-vous utilisé vos sens? Prendre part à l'activité vous a-t-il relaxé ou égayé? Avez-vous remarqué des détails qui vous ont paru beaux? Est-ce que prendre part à l'activité était insignifiant à vos yeux? Ou bien encore frustrant de ne pouvoir faire plus? Sentiez-vous l'envie d'aider le vivant? À ces questions, plusieurs ont fait mouche, et dans le top 1, c'est l'aspect relaxant et joyeux de l'événement qui a su convaincre la majorité. Observer, découvrir, s'émerveiller et comprendre seraient ainsi les clés pour accéder à la joie. Sur les quelques centaines de personnes participant à cette étude, il est amusant de remarquer que plus de la moitié est soit à la retraite, soit sans activité professionnelle.
Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdre.
Plusieurs organismes associatifs regroupant des naturalistes comptent parmi leurs effectifs un grand nombre de passionnés de la nature à la retraite. Qui comptera les oiseaux marins si nos jeunes retraités n'existent plus? L'énergie consacrée à la biodiversité par nos aïeux ne doit pas être négligée. Pour bon nombre de volontaires naturalistes amateurs ou passionnés de longue date, cela représente parfois plus de 35 heures par semaine, l'équivalent d'un temps plein. À la LPO, par exemple, la Ligue protectrice des oiseaux, 43% des bénévoles ont plus de 60 ans. D'après la LPO, l'avantage de ces jeunes seniors est qu'ils sont disponibles en semaine et ont encore assez d'énergie pour faire des missions de terrain, comme du suivi d'espèces protégées. Avec le recul de l'âge de départ à la retraite, ce ne sont pas seulement des années de repos méritées qui sont retirées, mais une aide non négligeable à répertorier les espèces animales et végétales de notre territoire, à une époque où notre ministère de l'Environnement ne cesse de supprimer des postes dans les instances chargées de faire cette récolte de données. On pense particulièrement au cas des parcs naturels régionaux et des réserves naturelles, où de nombreux postes disparaissent au fur et à mesure des années, et ce, malgré la crise majeure de la biodiversité qui a débuté depuis plusieurs décennies. Si les luttes de la logique agitent les foules, mais que ce brouhaha ne vous sied guère, je vous invite à me suivre pour écouter le récit de ceux qui laissent l'agitation aux vivants, des forêts et sous-bois. Le dieu perdu dans l'herbe. Chapitre 4. La raison. Le chemin qui ne mène nulle part. Quelque part au Cameroun. La nuit africaine ne ressemble à aucune autre. Rien n'effraie autant qu'une nuit de petite saison des pluies délivrées des vives écumes de la saison sèche, avant que le temps ne sombre dans la mousson. Cette première nuit fut pour moi la pire des épreuves. Je ne pouvais fermer l'œil, j'avais chaud. Je ne pouvais sortir car les bruits des animaux nocturnes et la peur des serpents me clouaient dans la case. La nuit fut longue, interminable. Dans ma tête, j'avais refait plusieurs fois le voyage pour retourner en France, mais rien n'y faisait. Quand le jour s'était enfin levé et que je m'assoupissais à peine, c'est le rythme des tam-tams qui me tira dehors. Aujourd'hui, j'aime à croire que c'est la voix de Tala qui m'aide à penser l'animisme, à errer comme un oiseau migrateur dans tous les savoirs du monde, toutes les cultures. Je noue des liens, je les défais, tout en me souvenant pourtant du village pygmé que j'ai quitté des années plus tôt. Je sais aussi que, malgré les bourrasques de vent et les traversées périlleuses, je peux revenir vivant chez les miens. Aucun chemin ne s'oublie lorsque l'on pense. Penser et non raisonner. Tala m'a appris que la raison est l'autre chemin qui ne mène nulle part. Souvent raison déraisonne. Il faut apprendre à penser sans raisonner. Je vais donc me taire pour que Tala prenne parole en moi. Je restais 7 jours auprès de Tala. Tout chez les pygmées est marqué par le nombre 7. Le monde contient 7 nœuds qui correspondent aux 7 façons dont la nature se révèle à l'homme. Par le nez, 2 narines, par les yeux, 2 yeux. Par les oreilles, 2 oreilles, mais une seule bouche, car il faut parler le moins possible. Et à l'intérieur de la bouche, il y a une langue, ce qui signifie un seul lit pour toute la nature. J'avais compris alors que, pour comprendre la nature, il faut ouvrir tout son être, et surtout, s'abstenir de trop la disséquer par la raison. Les pygmées vivent de la chasse et de la cueillette. Pendant la chasse, les enfants passent leur temps à toucher les insectes, à les flairer, à les caresser, et ensuite, ils les libèrent. Les adultes chassent d'abord par l'odorat. En se mettant contre le vent, un pygmée est capable de dire, à l'intensité de l'odeur, à quelle distance est la proie, et précisément de quel animal il s'agit. Otabla, le disciple de Tala, était même capable de savoir si la proie était adulte ou non. Tala m'avait demandé de suivre Otabla. Après une demi-heure de marche, on s'arrêta dans un coin de terre où l'on voyait à perte de vue. Une tranquille et domestique nature, aux fourrés sans traîtrise, était cernée par une rivière. Au-delà s'étendaient, jusqu'au bout de l'horizon, les arbres millénaires qui faisaient signe et amenaient la fortifiante magie de ce qui, au loin, portait les promesses d'un ailleurs. De longues minutes à regarder et à rêver, je redécouvrais la nature perdue. Il pleuvait sur le pays pygmé. Tout vert, comme chaque jour depuis mon arrivée. Je voyais cette terre éternellement retirée derrière d'immenses rideaux de pluie qui lui donnaient son caractère de tristesse douce, de résignation, d'endurance, cette humeur d'oublier. Moi, j'attendais un peu de soleil, mais comme s'il s'était ligué contre moi, les esprits pygmées ne m'offraient que l'éternelle pluie. Et alors que je ne voyais rien, j'apprenais à sentir. Mais aujourd'hui, mon odorat, comme les autres jours, n'était pas assez fin pour voir ce que mes yeux ne voyaient pas. Otabla désigna quelque chose dans l'immensité. Je crus qu'il s'agissait d'un baobab qui s'imposait, comme le maître d'un jardin créé par la main de Dieu. Alors que je m'extasiais, il prit son arc et décocha une flèche. C'est alors que je vis s'abattre un oiseau. Honteux de n'avoir rien vu, je le suivis sans mot dire. Avez-vous déjà observé le mouvement des vagues et le ruissellement des grains de sable exposés à un alizé? Sur nos côtes, on imaginerait bien des créatures prenant vie et repoussant les limites vertigineuses de la gravité au-dessus de cette étendue d'eau à première vue infinie. Un artiste s'essaye depuis plusieurs dizaines d'années à rendre ce rêve réalité. L'art cinétique, l'art du mouvement développé par Theo Jensen, confie aux plages du monde entier des sculptures utilisant le vent pour se mouvoir dans une complexité simplement déconcertante et hypnotisante. À 74 ans, Theo Jensen passe toutes ses journées sur ce milieu transitoire entre terre et eau pour dompter le vent en s'égayant à la mécanique dégarnie. Si le vivant vous inspire, que vous observez en autonomie insectes, végétales, oiseaux et autres fascinantes créatures, je vous invite à rejoindre un réseau de naturalistes amateurs et passionnés qui souhaitent se mettre à disposition de notre territoire pour pallier au manque pressenti dans la connaissance du vivant. Le nom de ce réseau émergent ? Les naturalistes des terres. Créé il y a quelques mois seulement, ces naturalistes appellent dans cette tribune à soutenir les luttes locales de défense du vivant. Ce jeune collectif engage ainsi le discours suivant. Le geste naturaliste ne doit pas se résumer à la seule contemplation ou à l'inventaire du désastre. Et il peut revêtir un caractère plus collectif, être un savoir partagé et accessible. Il est un outil puissant dont chacun doit pouvoir s'emparer dans une perspective de lutte locale. Connaître les vivants autour de soi est essentiel pour se lier plus fortement à son territoire, transformer son attention et activer les résistances. Nous appelons à un naturalisme qui soit aussi un levier d'action et d'engagement collectif, qui diffuse au-delà des cercles experts. Le lien sensible que nous avons avec les êtres vivants et leur écosystème fait de nous des alliés nécessaires et précieux dans leur défense. Sur notre territoire des Hauts-de-France, nous sommes pour l'instant une vingtaine. Plus de 400 naturalistes sont enregistrés à l'échelle de la France. Quoi de mal à occuper ce temps si précieux, à observer, regarder, comprendre, écouter, s'émerveiller et faire partie de cette grande machine du vivant qui nous entoure et nous construit chaque jour. Tu as pêché où, baobab, acajou ? Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, retournons écouter des amoureux de l'écologie cuisiner aux petits oignons. Des landes palissandres, mais les tremblent, tremblent être noyés.